et leur disait :
Allez à la ville chez un tel et dites-lui : Le maître te fait dire : Mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples.
Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit. Le soir venu, se trouvaient à table avec les douze. Pendant le repas, il dit :
Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer.
Profondément attristé, il se mit à lui demander chacun son tour. Prenant la parole, il dit :
Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux, celui qui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là.
Judas, celui qui le livrait, la parole.
Rabbi, serait-ce moi?
Jésus lui répond :
C'est toi-même qui l'as dit.
Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le donna aux disciples, il dit :
Prenez, mangez, ceci est mon corps.
Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant :
Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute. Car il est écrit : Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée.
Prenons la parole, Pierre.
Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi je ne tomberai jamais.
Jésus le répondit :
Amen. Je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois.
Pierre lui dit :
Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas.
Et que les disciples dirent de même. Alors Jésus parvint avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit :
Asseyez-vous ici, pendant que je vais là-bas pour prier.
Il amena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors :
Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi.
Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en pleurant. Et il disait :
Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux.
Puis il revient vers ses disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre :
Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller seulement une heure avec moi ? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible.
De nouveau, il s'éloigna et pria pour la deuxième fois. Il disait :
Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite.
Revenu près des disciples de nouveau, il les trouva endormis. Car les yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant, De nouveau, il s'éloigna et pria la troisième fois en répétant les mêmes paroles. Alors le Romain leur dit :
désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu'elle est proche l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'il est proche, celui qui me livre.
Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des douze, entra. Et avec lui, une grande foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe.
Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le.
Aussitôt, s'approcha de Jésus et lui dit :
salut, Rabbi.
Et l'embrassa. Jésus lui dit :
mon ami, ce que tu es venu faire, faites-le.
Alors ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui était avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit :
rentre ton épée. Car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père ? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi ?
À ce moment-là, Jésus dit aux foules :
suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et de bâtons ? Chaque jour, dans le temple, j'étais assis en train d'enseigner et vous ne m'avez pas arrêté.
Mais tout cela est arrivé pour s'accomplissent les écrits des prophètes. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, ils s'en présentèrent deux qui déclarèrent : mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit :
je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si c'est toi le Christ, le Fils de Dieu.
Jésus lui répond :
c'est toi-même qui l'as dit. En tout cas, je vous le déclare, désormais vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel.
Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant :
il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins ? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis ?
Ils répondirent :
il mérite la mort.
Alors ils lui crachèrent au visage et le jetèrent. D'autres le rouèrent de coups en disant :
faites-nous votre fête pour Jésus, qui a prévu.
Cependant, Pierre était assis dehors de la cour. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit :
comme si tu étais avec Jésus de Galiléen.
Mais il lia devant tout le monde et dit :
je ne sais pas de quoi tu parles. Une autre servante le vit sortir en direction du portail et elle dit à ceux qui étaient là : celui-ci était avec Jésus le Nazaréen.
De nouveau, Pierre lia en faisant ce serment :
je ne connais pas cet homme.
Peu après, Ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre.
Sûrement, toi aussi, tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, ta façon de parler te frémit.
Alors, il se mit à protester violemment et à jurer.
Je ne connais pas cet homme.
Et aussitôt, un coq chanta. Alors, Pierre se souvient de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois. Il sortit et, dehors, pleura amèrement.
C'est toi-même qui le dis.
Mais tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit :
Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi ?
Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier. Celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit :
Qui voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus appelé le Christ ?
Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait voulu Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui dit :
Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui.
Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit :
Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?
Ils répondirent :
Barabbas.
Pilate leur dit :
Que ferais-je donc de Jésus, appelé le Christ ?
Ils répondirent tous :
Qu'il soit crucifié.
Pilate demanda :
Quel mal a-t-il donc fait ?
Il criait encore plus fort :
Qu'il soit crucifié.
Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant :
Je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde.
Tout le peuple répondit :
Son sang, que tu sois sur nous et sur nos enfants.
Alors, il le relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors, les soldats du gouverneur amenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils dressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Et lui mirent un roseau dans les boîtes, et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant :
Salut, roi des Juifs.
Et après avoir craché sur de frères vous êtes. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier.
Sabachthani.
Ce qui veut dire,
mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient,
le voilà qui appelle le prophète Élie.
Aussitôt, l'un d'eux courut prendre l'éponge qu'il trempa de son boisson vinaigré. Il la mit au bout de roseau et lui donnait à boire. Les autres disaient, mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvaient Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph, et qui était devenu, lui aussi, disciple de Jésus. Il allait trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remette. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf que s'était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Le lendemain, après le jour de la préparation, les grands prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant :
Seigneur, nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant : Trois jours après, je ressuscite. Alors, donne l'ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu'au troisième jour, de peur que les disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple qu'il est ressuscité d'entre les morts. Cette dernière imposture serait pire que la première.
Pilate leur déclare :
Vous avez une garde. Allez organiser la surveillance comme vous l'entendez.
Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du sépulcre. En même temps, les sceller sur la pierre en y plaçant la garde.
Ne vous effrayez pas, je ne serai pas long aujourd'hui. Voici, nous commençons la semaine sainte. Et je me suis dit, cette semaine sera sainte par la façon dont nous la considérerons. Et pour la rendre sainte, moi je vous propose trois points que je tire de la célébration d'aujourd'hui. Le premier point concerne l'entrée de Jésus à Jérusalem. Il était accueilli comme roi. Et pourtant, il était monté sur un âne. Et puis, il n'avait pas d'escorte, pas de garde, corps, personne. En fait, même pas d'armée derrière lui. Et cela, c'est pour éviter d'effrayer les gens. C'est pour ôter la peur chez les gens. C'est pour faciliter son contact avec les gens. Je me dis, aujourd'hui, le Seigneur vient à notre rencontre d'une manière très simple, très douce, parce qu'il est humble, il est modeste, et il veut entrer dans notre cœur sans nous effrayer. Je me rappelle qu'en octobre 1978, l'évêque de Rome, Jean-Paul II, disait aux gens, « N'ayez pas peur !» Eh bien, il ne faut pas avoir peur d'accueillir le roi monté sur l'âne simple et qui veut nous toucher, qui veut entrer dans notre cœur pour nous transformer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je le tire, celui-là, de la deuxième lecture que je trouve qu'elle résume pratiquement tous les textes d'aujourd'hui. On nous parle du mouvement de Jésus, Jésus qui vient d'en haut et qui descend. Paul dit que Jésus n'a pas gardé jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il a accepté l'incarnation, il a pris chair, il est descendu. Et quand il est arrivé au niveau humain, il est descendu encore plus bas. Parce qu'il a vécu comme un esclave, il est mort de la dernière mort, la mort la plus ignominieuse. Parce qu'il avait toujours confiance en Dieu, Dieu l'a relevé et l'a ressuscité. Alors maintenant, nous sommes invités, si nous voulons rendre cette semaine sainte, nous sommes invités à entrer dans le mouvement de Jésus. Le mouvement de modestie, d'humilité, de simplicité. L'humilité, c'est cette disposition intérieure qui nous permet de nous décentrer et de donner la place à l'autre. L'humilité, c'est cette disposition intérieure qui nous fait reconnaître nos talents, mais sachant qu'ils sont venus d'un autre, ils sont venus de Dieu. Alors nous sommes invités à embrasser l'humilité dans notre vie. Jésus qui descend, il veut descendre dans nos souffrances, il veut descendre dans nos obscurités, dans nos doutes, dans nos hésitations, dans nos péchés, dans nos trahisons. Il veut descendre pour nous transformer. Ouvrons-nous à lui. Le dernier, troisième point vient de Pierre. Regardez, Pierre et les autres apôtres, alors que Jésus est en train de souffrir l'agonie, il passait par son agonie et eux s'endormaient. Ils étaient fatigués de la journée. Durant ce temps, cette semaine sainte, la grande semaine, nous sommes invités à prier continuellement. Il ne faut pas dormir comme les apôtres. Dormir par nos difficultés, par la routine de la vie. On peut rencontrer des difficultés dans la vie de prière, il peut y avoir la sécheresse, il peut y avoir l'activisme. Mais le Seigneur nous invite aujourd'hui à rester éveillés. Il dit qu'il faut prier pour que notre esprit reste ardent. Alors durant cette semaine, si nous voulons la rendre vraiment sainte, vous et moi, nous sommes invités à multiplier des heures de prière pour entrer en communication avec Dieu, parce que par la prière, Dieu vient nous toucher et nous transformer de l'intérieur. Alors nous allons continuer notre célébration, que l'Eucharistie que nous allons recevoir maintenant, le corps et le sang du Seigneur, viennent habiter en nous et nous disposer à suivre l'exemple de Jésus, se donner pour la vie des autres. Amen.